Débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre débat sur RFI. Ce soir, nous évoquons les perspectives de paix en Colombie. Ce mardi a débuté au Congrès l'examen d'une nouvelle version de l'accord conclu entre le gouvernement et les FARC. Nouvelle, car le premier texte avait été, il y a près de 2 mois, rejeté par référendum, ce qui avait fait grand bruit. Cette nouvelle procédure arrivera-t-elle à son terme? Est-ce qu'elle va permettre enfin la résolution d'un conflit qui est vieux de plus de 50 ans? C'est notre débat ce soir. Et nos deux invités en studio, José Dario Rodriguez Cuadros, bonsoir.
Bonsoir.
Doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la Colombie. Face à vous, Jean-Jacques Kurliansky, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, en charge de l'Amérique latine. Alors avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute un extrait du discours de Juan Manuel Santos, le président colombien. C'était jeudi dernier, lors de la signature de cette nouvelle version de l'accord de paix. Le président, aux côtés du chef des FARC, et voilà comment Juan Manuel Santos a présenté cet accord.
Ce nouvel accord est le fruit d'un dialogue ouvert et franc avec tous les secteurs de la société en Colombie. C'est aussi le fruit d'un processus rigoureux de renégociation à La Havane. Cet accord amélioré, réajusté, grâce à l'apport de la société, inclut la majorité des propositions présentées, mais préserve les objectifs essentiels de l'accord de Carthagène. Nous ne pouvons pas retarder une minute de plus la mise en œuvre de cet accord. Imaginez une seconde que nous retournions à la guerre avec les FARC. Aujourd'hui, dans ce grand théâtre, souvenons-nous, comme disait Bertolt Brecht, dans sa pièce « Homme pour homme », que toute vie est sacrée et que toute guerre est une défaite.
Que cada vida es sagrada y que toda guerra es una derrota.
Juan Manuel Santos, le président colombien, donc c'était jeudi dernier, dans un théâtre de Bogota, lors de la signature de l'accord de paix conclu avec les FARC. Jean-Jacques Kurliansky, toute guerre est une défaite? Dans la tête de Juan Manuel Santos, ça veut dire que l'accord de paix doit être adopté au Congrès. Il n'y a pas d'autre alternative possible?
Il y a eu un référendum, enfin, ce qu'en Colombie on appelle un plébiscite qui s'est mal terminé, qui s'est mal passé, contrairement aux pronostics, contrairement aux sondages. Enfin, une fois de plus, les sondeurs se sont d'ailleurs trompés.
Le non l'a emporté avec 50,2% des voix.
Oui, mais ce qui est plus grave ou plus important, je ne sais pas, c'est qu'il y a eu plus de 62 à 63% d'abstention, ce qui traduit un grand désintérêt de la part des Colombiens pour un conflit qui a peut-être été dans la portée, l'accord de paix a peut-être été surestimé ou regardé avec des lunettes qui n'étaient pas de l'extérieur, qui n'étaient pas celles qu'avaient les Colombiens.
Mais pourquoi ce désintérêt alors que c'est une guerre?
Ce qui m'a frappé, j'ai été invité à être observateur pour ce plébiscite le 2 octobre. C'était tout frais, tout récent. Et ce qui m'a frappé dès le premier moment, c'est que les bureaux de vote étaient vides. Les assesseurs étaient gelés, parce que beaucoup de bureaux de vote se sont, à la colombienne, concentrés sur des espaces extérieurs. Et il fait froid à Bogota, c'est à plus de 2500 mètres d'altitude. Alors, ils étaient gelés, d'autant plus gelés qu'ils n'avaient rien à faire. Il n'y avait pratiquement personne.
Alors ensuite, comment expliquer ce désintérêt alors que le conflit a fait des millions de victimes, a duré 50 ans?
Il y a plusieurs hypothèses. Donc, ce qui est ressorti des résultats, c'est que la partie urbaine de la Colombie, Bogota, la capitale mise à part, n'a pas manifesté d'intérêt particulier, ou quand elle a voté contre. C'est-à-dire que dans les villes, le conflit, il est aussi proche ou aussi lointain qu'à Paris. On suit le conflit. Je veux pas dire qu'il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas d'autres phénomènes notables de violence dans les villes colombiennes, mais le conflit avec les FARC, c'est un conflit de la Colombie périphérique, de la Colombie rurale. Et donc, cette partie rurale et périphérique de la Colombie qui est la plus affectée par le conflit. On aurait pu penser que les gens auraient voté contre, en disant, bon, on ne peut pas pardonner aux FARC, on ne peut pas tourner la page. Non, c'est cette partie-là qui a soutenu les accords de paix. Alors que la partie urbaine, manifestement, a voté avec d'autres critères, ils ont voté pour ou contre le président Santos. Les chauffeurs de taxi ont voté contre, par exemple, parce que il y a Uber en Colombie, donc ça n'a rien à voir avec les accords de paix, mais ils ont voté contre pour cette raison-là. Les églises, notamment les églises évangélistes, se sont mobilisées contre le genre, contre la légalisation du mariage de personnes de même sexe. Apparemment, on est assez loin du règlement et de l'accord de paix. Et pourtant, c'est cet élément-là qui a pesé dans le résultat.
Règlement, accord de paix qui n'intéresse pas globalement la population colombienne, José Rodriguez ?
Qui n'intéresse pas cette partie de la population urbaine qui n'a pas été touchée par les conflits armés. Et paradoxalement, c'est la partie
la
plus peuplée de la Colombie, qui est un pays depuis les dernières 20 à 30 années, très urbain, et dont la plupart de la population se trouve dans les grandes villes, qui sont les villes qui ont moins voté pendant ces référendums. Il y a d'autres éléments, je crois aussi, on peut revenir à la question de l'ouragan Mathieu qui est passé ces jours-là précisément dans le nord de la Colombie, et qui a obligé de fermer certains bureaux de vote dans cette région-là, qui, on suppose et on soupçonne qui allait voter oui. Mais à mon avis, il y a une autre chose, et c'est que cette abstention, à mon avis, ça peut être interprété comme une espèce de châtiment, de punition aux FARC, parce que c'est clair que les FARC sont un groupe très antipopulaire en Colombie. Disons, c'est un groupe qui n'est pas très, très aimé en Colombie. Il y a une bonne partie de la population qui considère que c'est un groupe de narco-terroristes et qu'on ne peut pas pardonner tout ce qu'ils ont fait, les enlèvements, les massacres, etc. Et donc, une bonne partie de cette population urbaine qui est les FARC et a décidé simplement de ne pas aller se rendre au bureau de vote.
Paradoxalement, qui est les FARC alors qu'elle ne les voit pas et qu'elle ne les voit qu'à la télévision ou dans les journaux, quoi. C'est le paradoxe.
C'est le fantôme qui fait peur.
Oui, mais il y a l'élément pour ou anti-Santos qui a joué. Et donc là, bon, il y a quelque chose de récurrent en Colombie, c'est que très souvent, les accords de paix, les négociations ou le passage à l'action militaire a toujours été instrumentalisé par les différents partis traditionnels colombiens à des fins électorales.
On va en parler. On a évoqué l'échec du référendum donc il y a près de 2 mois. Est-ce que passer par le Congrès, là, à partir d'aujourd'hui, mardi, c'est une bonne chose?
Passer par le Congrès, ça pose moins de problèmes au président. D'ailleurs, il suffit de voir qui sont les parlementaires qui ont assisté à la cérémonie de signature dans le théâtre dont vous parliez tout à l'heure, le théâtre Odéon, qui est le grand théâtre traditionnel de Bogota. Il y avait plus de 166 parlementaires, il n'y en avait que 20 qui n'ont pas participé. Les parlementaires les plus conservateurs, les plus à droite, qui sont proches de l'ex-président Uribe. Donc la procédure en elle-même ne pose pas problème.
Le nouvel accord de paix va être adopté.
Il va être ratifié, reste à savoir s'il va marcher.
José Rodriguez, votre avis là-dessus ?
Donc, à propos de ce passage par le Congrès, par le Parlement, il faut dire aussi que c'était d'une certaine manière, c'était pas explicite, mais c'était prévu que dans la sentence de la Cour constitutionnelle qui réglait le mécanisme du référendum, qui disait que si le non emportait le référendum, il y avait la possibilité de renégocier l'accord. Et que cet accord devait de toute manière être ratifié. Et évidemment, ce qui, à mon avis, a joué pour cette décision de passer par les parlements, c'est précisément que le cessez-le-feu bilatéral était très fragile en ce moment-là.
Conclu fin août.
Exactement.
Et il y a depuis quelques semaines des incidents, des assassinats de militants de gauche.
Et avec cette incertitude, et avec les guerrieros qui étaient déjà en train de se mobiliser pour les zones de concentration, pour déposer les armes, on ne pouvait pas traîner. Donc, convoquer un nouveau référendum, ça prenait beaucoup de temps, à mon avis. Et le Parlement est une instance légitime, quand même.
Il y avait urgence à agir, Jean-Jacques Kurlianski. Finalement, le Congrès était la meilleure méthode.
Oui, il y a urgence. Il y a eu un incident il y a quelques jours avec la mort de guerriers des FARC. Il y a également une cinquantaine de militants dans les campagnes qui sont considérés comme, à tort ou à raison, comme étant idéologiquement proches des FARC qui ont été assassinés. Donc, ça rappelle une autre époque dans les années 80, quand déjà il y avait eu un processus de passage à la lutte politique de la part des FARC et 2 à 3 000 partisans des FARC avaient été assassinés, des partisans des FARC qui étaient passés à la lutte électorale, donc des conseillers municipaux, des députés, des candidats aux élections présidentielles. Ça avait été un vrai massacre. Et donc, ils étaient tous revenus dans la clandestinité. Donc, on a l'impression qu'on est là à un moment où les choses pourraient basculer dans cette direction-là. Donc, il y avait effectivement, de la part du président et de ceux qui souhaitent que cet accord de paix puisse, malgré tout, entrer en fonction, entrer en fonctionnement, et la nécessité d'aller vite.
Si l'accord est validé, ça veut dire que la paix va être durable en Colombie ?
Le problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les processus de ce type en Colombie ont toujours été instrumentalisés à des fins qui n'ont rien à voir avec les accords de paix. Le constat que j'ai pu faire...
Donc finalement, l'enjeu de cet accord, c'est pas la paix. Selon vous, il y a d'abord un enjeu politique qui est plus important que l'enjeu de paix ?
Si l'enjeu avait été la paix, d'une façon ou d'une autre, il aurait fallu mettre tout le monde autour de la table. C'est-à-dire y compris l'extrême droite, y compris Alvaro Uribe et ses amis.
Donc c'est une manœuvre politique, cet accord.
Il y a eu quelque part, j'ai pu le constater en écoutant un certain nombre de personnes qui étaient proches du président Santos, quelque part, si ça marche, ça y est, Uribe est complètement hors jeu.
Ça veut dire que la paix, c'est pas le premier objectif pour le président Santos,
c'était un objectif important, mais en domino, avec aussi le calcul caché que finalement on va éliminer un adversaire politique important.
José Rodriguez, vous partagez ce point de vue, manœuvre politique de la part du président colombien?
De la part de Alvaro Uribe, évidemment.
Aussi.
De la part du
chef de l'opposition.
Qui pense aux élections de 2018.
Voilà.
Et pour lui et pour les centres démocratiques, le parti d'extrême droite en Colombie n'était pas prévu la victoire du non. Et la preuve de ça, c'est qu'ils avaient pas un plan B. Donc, je crois qu'ils attendaient seulement les résultats pour le oui, que le oui l'emportait, commencer la mise en place de l'accord de paix et continuer dans la zone de confort de l'opposition et critiquer la légitimité du référendum. Mais le jeu a complètement changé. Après, il y a eu le prix Nobel du président Santos, parce que, à mon avis, après le référendum, la légitimité, la popularité de Santos est tombée presque à zéro. C'était très difficile. Le prix Nobel, ce qu'a fait, c'était d'équilibrer un peu le poids entre Uribe et Santos. Que l'accord de paix est politisé, je crois que oui. C'est très politisé en ce moment, et on le verra... En détriment de la paix, on le verra dans les discussions au Parlement.
Donc l'opposition, finalement, s'oppose à ce texte parce qu'il est porté par le président, plus que par ce qu'il contient.
Exactement.
José Rodriguez.
Exactement, parce qu'ils ont plus intéressé aux questions politiques, il y a le propre intérêt du parti, que vraiment à la paix de la Colombie.
Jean-Jacques Corlianski,
ce que je voulais dire, c'est que la procédure parlementaire est contestée par l'opposition. L'opposition sait que l'accord va être ratifié par la voie parlementaire, ils en contestent la légitimité. S'ils en contestent la légitimité, on peut avoir des graves inquiétudes, parce que ça veut dire que le contenu des accords est illégitime. Et donc ça peut justifier ce qui s'est passé dans les années 80.
C'est le cas selon vous ? Si on se penche un petit peu sur le contenu de l'accord.
Je ne sais pas ce qui va se passer, mais les choses telles qu'elles se présentent peuvent effectivement dégénérer à la façon dont elles ont dégénéré dans les années 80.
Il y a ce risque-là, José Rodriguez ?
Quand on voit les données, des bases de données des institutions respectables en Colombie comme le CINEP et des questions de contre le droit international humanitaire, contre les droits de l'homme, on voit que les actions et violente, plus et répétée pendant l'année 2015, c'était des menaces contre des leaders sociaux et des activistes des droits de l'homme. Et cette année 2016, dans les premiers 10 mois de l'année, il y a déjà 70 personnes assassinées.
Voilà. Donc en septembre, il y a eu en grande pompe l'accord de paix à Cartagène. Finalement, tout peut en quelques mois complètement changer.
Il y a un élément imprévisible, lui aussi, qui vient ajouter un élément supplémentaire d'inquiétude et d'incertitude. C'est l'élection aux États-Unis. L'un des éléments forts de ce processus de paix, c'était le soutien apporté au processus par le président des États-Unis qui, parallèlement, avait négocié un rétablissement des relations diplomatiques avec Cuba, qui a été le siège des négociations entre les FARC et le gouvernement colombien.
Et pour la Colombie, Barack Obama avait fait des promesses pour la reconstruction.
Il avait désigné un ambassadeur qui était chargé du suivi des négociations. Il a systématiquement apporté un soutien au président Santos. Que va faire Donald Trump?
Son élection, c'est un élément aggravant pour la paix en Colombie.
Voilà, il n'a rien dit pour l'instant sur la Colombie. En revanche, il a parlé de Cuba en des termes qui peuvent susciter l'inquiétude sur le soutien du nouveau président des États-Unis au processus de paix tel qu'il est engagé. Et à l'inverse, des encouragements à la droite colombienne de refuser les accords.
C'est complètement incertain, Donald Trump, parce que il ne s'est pas prononcé. C'est un désintérêt pour la Colombie complètement. Disons, il dit pas oui, mais il dit pas non plus. Donc, ce qui est en jeu, c'est aussi l'argent qui était prévu pour le post-conflit. Mais c'est vraiment une zone d'incertitude dans ces moments-là, tant pour la droite comme pour le gouvernement.
Le décès de Fidel Castro peut modifier la donne
Non, il ne faut pas surestimer. Bon, Fidel Castro était hors jeu politique active depuis une dizaine d'années. C'est Raúl Castro qui avait pris les rênes du pouvoir, qui a donné sa marque aux nouvelles orientations du régime cubain vers une ouverture économique. Certaines ouvertures en matière de droit, de circulation notamment, et un appui au processus de paix colombien qui est évident. Donc il y a eu un parallélisme entre le processus de paix colombien et le rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis. Fidel Castro, a suivi ça depuis sa chambre d'hôpital. Enfin, ce n'est pas un élément décisif.
Sur le nouvel accord, comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Parce qu'on a bien compris qu'il y avait une manœuvre politique derrière tout ça, un combat entre le pouvoir et l'opposition. Le texte prévoit la mutation des FARC en mouvement politique. L'opposition exige que les guérilleros soient condamnés à de lourdes peines de prison. C'est le principal point, selon vous, principal point de conflit
tel que les choses se présentent. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de modifications par rapport à l'accord initial, mais lorsqu'on écoute et lorsqu'on lit les commentaires de l'opposition, on a le sentiment que quelles qu'aient été les modifications, ça n'aurait pas été suffisant, dans la mesure où ils considèrent que les FARC sont illégitimes et doivent effectivement être emprisonnés, ce qui est inacceptable pour un mouvement comme les FARC. S'il y a un compromis, il faut bien que, même si la justice passe, qu'elle soit transitionnelle. On ne peut pas demander à un mouvement qui sort de la lutte armée de sortir de la lutte armée pour aller en prison. Donc à partir de là, il y a également des revendications de la part des militaires et de leurs familles de ne pas être soumis à la même législation punitive que les FARC. Donc il y a des motifs qui sont avancés par l'opposition qui en réalité cachent un refus d'aller à l'accord.
José Rodriguez, vous êtes d'accord? Finalement, on parle d'une nouvelle version des accords de paix, mais finalement, qu'importe le contenu du texte?
Disons que la structure de l'accord n'a pas changé. Et les points sur lesquels les deux parties se sont mis d'accord n'ont pas changé. Mais il y a eu beaucoup de modifications. Et il y a eu autour de 500 propositions de changement qui se sont rassemblées dans 57 grands thèmes et dans lesquels le seul qui n'a pas été inclus, c'est précisément celui de la participation politique des FARC. Mais je dis, comment c'est possible qu'un guérilla qui était né comme le bras politique d'un parti politique en Colombie, qui était le Parti communiste, et au fur et à mesure a évolué, et qu'aujourd'hui demande précisément pour se démobiliser de participer dans la vie politique du pays, et on dit non. Disons, c'est comme revenir au principe de la discussion, et sur cette discussion, si on reste là, on peut rester 50 ans de plus. Donc, il faut laisser la place, à mon avis, au FARC de participer. Et je crois que c'est le point névralgique pour Álvaro Uribe. Mais c'est précisément parce que c'est le seul point sur lequel il peut vraiment faire l'opposition acharnée comme il l'a fait maintenant.
Ce point qui est donc la question de la mutation des FARC en mouvement politique, en débat en Colombie. Merci José Rodriguez, doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la Colombie. Merci à vous. Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques en charge de l'Amérique latine. Merci à vous d'avoir écouté ce débat que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. www.rfi.fr. Débat préparé par Florence Pons, réalisé par Hélène Avril. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. L'info revient dans 30 secondes.
Appelez-nous, exprimez-vous.